Alors, qui dans la salle connaît des journalistes? Des journalistes dans la famille, des connaissances. Merci de lever la main, ceux qui ont des journalistes.
Je leur ordonne de se rendre sur le champ, faute de quoi nous attaquerons le palais.
Nous sommes ici par la volonté et en mission pour Cléopâtre.
Et je voulais avoir votre sentiment sur cette grande question-là du basculement culturel d'aujourd'hui.
Alors, est-ce qu'en l'an 2000, les messieurs porteront des robes?
Génial! Sauf que nous, on pose une question politique. On pose une question de société.
À votre avis, l'Hexagone, qu'est-ce que c'est?
C'est un rond à deux côtés.
Un quoi?
Un rond à deux côtés.
Deux côtés, ouais. Vous êtes sûr?
Oui.
La quotidienne, le rendez-vous de la rédaction de Jet FM.
Un outil de création et de diffusion qui n'a jamais eu de précédent dans notre histoire. C'est une révolution totale qui est occupée de s'accomplir.
Du lundi au vendredi à 18h.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans La Quotidienne, une émission réalisée par Alizé. Aujourd'hui, deux invités, quelqu'un qui connaît un petit peu les lieux, c'est Jean-Marie Niveyne. Salut Jean-Marie.
Bonjour Pascal.
Alors, musicien, percussionniste, très à l'œuvre dans un projet qui s'appelle Le Bal de Bellevue, un projet de territoire, tout ça porté par une compagnie qui s'appelle System B, et qui a chronique maintenant ce bal de Bellevue mensuel sur Jet FM, les échos du bal.
Exactement.
Une fois par mois. En face de toi, un ami du bal de Bellevue, un ami tout court, Gwenaël Kivigeur. Bonjour Gwenaël.
Bonjour Pascal.
Musicien, chanteur, travailleur social, universitaire, doctorant en sciences humaines et sociales. Pour commencer à te présenter, ça te va là pour l'instant?
Oui, c'est parfait.
Hein, musicien professionnel pendant une quinzaine d'années?
Oui, c'est ça à peu près, oui.
Et plutôt polarisé maintenant sur une thèse là, qui est en train de se terminer?
J'espère.
Alors une thèse sur quoi? Sur les arts ethnoculturels dans l'intervention sociale, c'est ça?
Oui, c'était un peu comme ça que je l'avais intitulé au début. Après, le propre d'une thèse, c'est qu'elle se modifie très très souvent, et presque jour à jour, jusqu'à la veille de déposer la thèse. Donc même le titre change. Le titre a beaucoup changé depuis le début. En fait, le tout début de ma recherche, quand j'ai démarré, je voulais travailler sur ce qu'on appelle les processus interculturels. Donc la rencontre des cultures, c'est ce qui m'a toujours motivé, que ce soit comme citoyen ou comme musicien. Donc qu'est-ce qui se passe quand des cultures se rencontrent? Et en travaillant sur le sujet, on se rend compte très très vite que les cultures ne se rencontrent pas. C'est les êtres humains qui les rencontrent.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Oui, parfois, ils ne se rencontrent pas pour la paix. Hein. Quoi qu'il en soit, se met en route des processus interculturels au moment où deux personnes de cultures différentes, voire croyant être de cultures similaires, se rencontrent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir rencontre interculturelle, fondamentalement, même au sein d'une fratrie. Puisque on voit très bien que dans une famille... deux personnes, frères et sœurs par exemple, qui ont été élevés par les mêmes parents, n'ont ni les mêmes goûts, ni les mêmes perceptions du monde. Donc on est bien dans des rapports interculturels.
Dans la même famille.
Dans la même famille. Et parce qu'ils n'ont pas les mêmes histoires, etc.
Alors c'est pas par hasard que vous êtes réunis tous les deux là, sur ce plateau, Jean-Marie et toi, Gwenaël, c'est que tes recherches t'ont amené justement à découvrir, je crois, le bal de Bellevue, ce projet qui fait danser un quartier à partir de la diversité culturelle, qui crée du lien. Ça, évidemment, ça t'intéressait et ça fait écho totalement à l'objet de ta thèse, de tes recherches.
Oui, j'ai démarré en 2017. En 2017, ma thèse. Et effectivement, je voulais travailler sur les processus interculturels. Et dans le meilleur des cas, j'avais envie de lier ça aux cultures traditionnelles. Donc, j'essayais de trouver un terrain qui allait me permettre de démarrer ma recherche. Mmh. Et ça n'a pas été le bal de Bellevue au départ, mais j'avais deux choix de terrain en Bretagne. Le premier, c'était à Douarnenez, dans le Finistère Sud. Le festival de cinéma des minorités. Donc, le seul festival de culture minoritaire orienté sur le cinéma en Europe.
Donc, ça t'intéresse beaucoup, hein, culture dominante, culture dominée, culture autochtone.
Bien sûr, c'est ça. En fait, de toujours avoir avoir cette bienveillance de s'intéresser d'abord aux minorités avant de s'intéresser aux cultures dominantes, puisque les cultures dominantes, elles n'ont pas trop de problèmes pour survivre. Et que s'il y a une attention particulière à avoir, c'est toujours envers les minorités, ou en tout cas envers celles qui sont en danger ou en situation de malaise, peu importe lequel. Par exemple, la situation de la femme dans le monde l'est alors qu'elle n'est pas sur un plan numérique minoritaire. Pourtant, la situation n'est pas forcément glorieuse. Donc, toutes les minorités sont importantes et c'est les minorités qui permettent de donner, pour moi, la légitimité d'existence à la culture dominante.
Et tu t'es intéressé longtemps à ça. Alors, t'es passé par un BTS pub qui t'a mené nulle part. j'ai vu ça. Et puis, t'as été sur un IUT carrière sociale. C'est du côté de Tours, où t'as été assez ému du fait qu'il y a un baby dans le foyer. Le baby-foot était important dans ta formation.
Ah oui, tu te rappelles de ça.
T'es sur JTFM, là, quand même. Hein. Et très vite, tu t'es intéressé aux communautés indiennes latino-américaines, dominées, bien sûr, qui faisait écho à ta propre histoire familiale bretonne.
Oui, c'est ça. Je me suis intéressé... en fait, pour donner une anecdote rigolote, moi, jusqu'à 18 ans, je jouais aux petites voitures dans ma chambre.
Ah oui ?
Vraiment, hein. Et à 18 ans, j'ai pris conscience d'une chose qu'on m'avait cachée. C'est pourquoi est-ce que mes parents n'ont pas droit de parler breton, de parler leur langue maternelle, dans n'importe quel endroit public dans la société française. Je précise, par exemple, puisqu'on va me dire, ben non, vous avez le droit de parler breton. Ben non, c'est quand on va au commissariat, on n'a pas le droit de parler breton. Quand on va à la mairie...
Mais tu ne serais pas forcément compris par l'agent de police, peut-être, c'est peut-être pour ça.
Eh ben, s'il parle breton.
Ouais, mais s'il ne parle pas.
Mais s'il parle breton, aurait-il droit d'écrire le procès-verbal en breton.
Ben non.
Bon, etc., etc. Donc, il y a plein d'endroits où on ne peut pas parler sa langue maternelle. Donc, c'est quelque chose que je n'avais pas perçu, en fait. Parce que ça me paraissait tellement étrange de ne pas avoir droit de parler sa langue dans un pays démocratique. Et je travaille à ce moment-là sur les Indiens Mapuches du Chili. Et je me rends compte de tous ce qu'on appelle les avocats aux pieds nus à l'époque, là-bas, et qui travaillent pour se réapproprier les terres, de pouvoir parler leur langue, etc., etc. Et puis, je vois qu'il y a une sorte de concubinage culturel entre leur culture et celle de l'envahisseur espagnol, qui est la culture dominante. Et je fais un parallèle avec la Bretagne et avec mon histoire personnelle, effectivement, parce que c'est comme ça souvent que ça marche, hein. C'est avec nos histoires personnelles qu'on avance dans la vie. Et je fais ce parallèle, et à ce moment-là, je devais partir travailler auprès des Mapuches. Et je me dis, pars pas. D'abord, tu vas essayer de bosser chez toi. Et à ce moment-là, je commence à m'intéresser à ma culture au-delà des poncifs qu'on entend sur la culture bretonne et en agitant le drapeau breton, quoi. Je commence à m'intéresser un peu plus précisément à ce qui est en train de se passer et ce qui se passe en Bretagne, et en même temps, dans plein d'autres endroits du monde où il se passe des choses relativement similaires.
Je me tourne vers Jean-Marie. Ce qui vous lie tous les deux, c'est votre bretonnitude ?
Même pas. En fait, je découvre une fois de plus, en écoutant Gwen, que moi, j'ai passé un petit peu de temps au Chili, là, pendant 2 ans, et j'ai été sensible à l'histoire des Mapuches, justement. Et c'est marrant. Enfin, une fois de plus, il y a des points d'attache dans nos histoires et dans notre sensibilité. Et on a découvert au fur et à mesure, effectivement, qu'on est originaire de Bretagne. Que moi, il y a une histoire un petit peu similaire avec mes grands-parents, mes arrière-grands-parents qui chantaient en breton. Mon arrière-grand-mère, côté paternel, Soise Huiban, qui a été collectée dans les années 70, qui parlait breton, etc. Et c'est exactement la même histoire, et je me suis posé les mêmes questions à des âges différents, et j'ai découvert ma propre culture à l'adolescence, et en me posant toutes ces questions là, quoi, et en me rendant compte que j'ai une culture, et comment, pourquoi cette langue, pourquoi la langue, pourquoi la musique, la danse, etc. Voilà pourquoi la langue a été peut-être à un moment donné étouffée.
Oui, parce que la langue, c'est un outil de domination aussi, forcément.
Ça peut être
un dominante,
ça ouais. peut être un outil politique de revendication et donc de d'asservissement d'autres cultures, mais c'est quand même avant tout un outil de partage et de communication et de vision du monde et de moyens de partager des différences avant d'être un moyen de domination quand même.
Alors,
la langue française est par exemple une fabuleuse langue de littérature, par exemple.
Oui.
Donc et je pense qu'elle est avant tout une langue de littérature avant d'être une langue de domination. Si elle devient une langue de domination, c'est parce que certaines personnes l'utilisent comme un outil de domination, mais c'est comme un marteau. On peut l'utiliser pour une forge ou frapper sur la tête de quelqu'un.
Et quelqu'un avec beaucoup de facettes. Il y a ce travail, cette formation en carrière sociale. Il y a le travail à la musique. Tu arrives à la musique, l'accordéon, je crois, à 9 ans, mais que tu laisses tomber un peu pour des choses plus rock, rock indé, rock alternative, voire
ouais,
punk.
Ouais, c'est ça. J'ai appris à jouer l'accordéon auprès d'un professeur qui faisait du violon, de l'accordéon et du piano. Il était aveugle. Il habitait au Relais-Curion, juste à côté de Guipava.
C'est Brest, hein.
Ouais, c'est la banlieue de Brest, ouais. À l'époque, je savais lire la musique, puisque c'était du Musette qui m'enseignait. Et puis, je découvre la musique bretonne. Et puis, je la pratique au départ, derrière la scène. Et je me réapproprie au fur et à mesure les morceaux, et donc, c'est l'oralité qui arrive là. Et la musique bretonne, je l'ai appris uniquement d'oreille. Et aujourd'hui, je ne sais plus lire la musique, parce qu'elle ne m'a pas été particulièrement utile. Comme un enfant qui apprend le français ou le breton, peu importe, il sait parler avant de savoir lire.
Dans ta construction, il y a cette formation des carrières sociales, je parlais de formation à Tours, il y a cette pratique musicale également. Tout ça va commencer à forger peut-être les prémices de tes recherches actuelles ?
Oui, alors j'en étais pas du tout là, en fait, à l'époque, ouais. Parce que le hasard de la vie a fait que je suis arrivé jusqu'à faire un bac plus 5 professionnel, un DESS à l'époque. Et il était vraiment hors de mon horizon de démarrer une thèse de doctorat, mais vraiment, vraiment, vraiment hors de mon horizon.
Mais t'as quand même un diplôme d'État en musique bretonne.
Oui, mais ça c'est plus récent, je l'ai passé en 2006. Mmh. Donc, parce que j'étais professionnel à l'époque, et puis je me dis, ça va me donner certainement quelques outils complémentaires en tant que musicien, et puis une certaine peut-être légitimité pour enseigner dans des conservatoires, par exemple, puisqu'il faut des diplômes. Et que ça m'a permis d'enseigner à l'Université de Limerick en Irlande ou au Conservatoire Royal de Glasgow en Écosse, ou choses comme ça, la musique bretonne, peut-être en partie grâce à ce diplôme. Je dis peut-être, mais pas sûr. Hein.
En tout cas, il y a un certain moment où il y a quelque chose qui va dialoguer entre ta formation carrière sociale, travailleur social, et puis cette dimension culturelle, musicale. Les travailleurs sociaux sur un territoire, là j'en reviens à Bellevue, peut-être au bal de Bellevue, et je regarde Jean-Marie en disant ça, doivent s'emparer un peu de la diversité, alors je ne sais pas comment on va appeler ça, des arts ethnoculturels pour booster peut-être leur action au bénéfice des populations qui sont sur ces territoires, qui ont des conditions sociales quelquefois qui sont un peu compliquées. Il y a ça un peu de ce que tu décris dans tes recherches. Il y a le fait que les travailleurs sociaux peuvent s'emparer de ce genre d'outils. Peut-être que les artistes aussi s'emparent dialoguent avec ces travailleurs sociaux. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelle mayonnaise faut faire entre les deux ?
C'est une question difficile parce que c'est en fait le propre de ma recherche. Donc, si tu veux, je ne suis pas encore arrivé complètement à la fin de mon travail. Donc, répondre à ta question de manière claire, c'est pas évident pour moi. Mais en tous les cas, l'ambition de cette recherche est de dessiner les contours d'outils qui seraient susceptibles d'être utilisés à la fois par le milieu de la culture et à la fois le milieu du travail social. Et pourquoi ? Parce que je pense que les travailleurs sociaux sont les plus concernés par les personnes auprès de qui ils travaillent. C'est-à-dire qu'ils sont parfois dans l'intimité des problématiques des personnes. Ils essayent de comprendre d'où viennent les problèmes. Alors, c'est souvent des problèmes aussi familiaux. Si on prend le cas de l'immigration, il y a forcément à l'intérieur de ces problèmes familiaux un problème d'arrivée sur un territoire et de confrontation d'une culture d'origine avec la culture du pays dans lequel on arrive, donc la culture dominante.
Et oui, on en revient.
Et là-dedans, même s'ils en ont conscience, les travailleurs sociaux, je me suis rendu compte, dans le meilleur des cas avec étonnement, dans le pire des cas avec stupeur, qu'ils ne sont très peu formés à cette rencontre interculturelle, à penser qu'ils œuvrent dans un contexte interculturel. Et ça, c'est un lourd héritage d'une certaine vision de l'universalisme en France.
C'est une approche descendante, alors qu'il faudrait partir des gens eux-mêmes, partir des gens plutôt que d'une méthode ou mettre les gens dans des cases, c'est ça ?
C'est peut-être une rencontre entre les deux. C'est-à-dire, les méthodes sont importantes, mais prendre en compte la personne est fondamentale, particulièrement quand on fait du travail social. Quand on interroge les travailleurs sociaux, ce sont des gens très compétents. J'en ai rencontré sur Bellevue. Donc, je suis allé les voir, je suis allé parler avec eux. Ce sont des gens très compétents, très formés. Mais la question culturelle, elle pose toujours un souci, parce que ça pose déjà un problème de définition. De quoi on parle quand on parle de culture ? En général, si vous faites attention, quand on entend les gens parler à la radio, à la télé ou dans les journaux, on peut remplacer le mot culture par le mot art. En général, ça marche. Mm-hmm. Parce qu'en général, les gens parlent d'art quand ils parlent de culture. Et ça, d'ailleurs, le ministère de la culture ferait mieux de s'appeler le ministère des arts. Parce qu'il ne travaille pas sur la culture, mais sur les arts, essentiellement. Ou le patrimoine bâti, qui a l'architecture, etc. Mais à quel moment, quel ministère s'occupe de la culture des gens ?
C'est un champ plus large que les arts.
C'est un champ beaucoup plus large que les arts, parce que les arts représentent un petit espace dans le haut de l'iceberg. Mmh. Et la culture représenterait l'ensemble de l'iceberg dont la principale partie est immergée.
On est toujours avec Gwenaël Ekivijer, il est chercheur, il est musicien, et il a beaucoup de cordes à son arc, comme je le disais. Tu es compositeur, on va écouter certaines choses qui te concernent de près, musicalement. Tu as fait deux choix d'un album. Alors un album, le groupe s'appelle Syndicat, c'est ça ?
Gwenka Syndicat.
Gwenka, comme Gwenaël Ekivijer.
C'est ça.
C'est ça. Et ce que je vois dans mon verre, c'est le titre de l'album ?
C'est le titre de l'album.
On va écouter, alors c'est la plage 13 de cet album qui en compose 14. C'est une complainte qu'on va entendre ?
C'est une complainte, oui. C'est donc souvent des histoires un petit peu tristes. Celle-là, elle a une histoire particulière parce qu'elle est chantée de chaque côté de l'Atlantique. C'est-à-dire, elle est chantée dans le nord de l'Ille-et-Vilaine, auprès d'une dame que j'ai eu la chance de rencontrer. Elle est chantée également au Québec avec une version différente et avec une mélodie différente. Et je trouvais la fin de la version bretonne extrêmement triste. Et donc, du coup, j'ai mis la version québécoise. Donc, c'est un mélange de deux versions du Québec et de Bretagne. Voilà, qui est une chanson que je trouve absolument magnifique.
On va l'écouter et ensuite, dans notre conversation, je suis sûr qu'on va parler de pouvoir d'agir. Et puis, on parlera du bal de Bellevue et comment ce projet qui a été imaginé par Jean-Marie résonne particulièrement, voilà, à tes yeux, à tes oreilles. Alizé nous lance donc ce titre, « Ce que je vois dans mon verre », donc le titre éponyme de Gwenka Syndicat.
Par un dimanche au cabaret, après une heure, semaine auprès d'un pot de vin bien plein qui soutient la faiblesse humaine. Je m'approchais timidement, le front courbé dessus mon verre, entendais rire à chaque instant. Que regarde-t-il de dans son verre ? C'est le présent ou le passé ? Je vois là-bas une chaumière, c'est le berceau où je suis bercé. Me regarde ma tendre mère, un beau matin ouvrant les yeux, je soupire et j'appelle ma mère, et l'on me dit qu'elle est aux cieux. C'est ça que je vois dans mon verre. Rendu à l'âge de 16 ans, ou lorsque l'amour nous domine. Ensuite, à l'âge de 20 ans, j'épousai Jeannette, ma cousine. Le prêtre bénit notre union, ma compagne m'a rendu père. La joie régnait dans ma maison, c'est ça que je vois dans mon verre. Mais un beau soir, à l'heure des chiens, de forts éclairs frappent, c'est la foudre. Le lendemain, sous un drap noir, j'amène Jeannette dans sa tombe. Ce fut pour moi un triste jour, mon enfant n'aura plus de mère. Moi, je suis resté seul sans épouse, c'est ça que je vois dans mon verre. Grandit, ce fut ma joie, un des beaux garçons du village. Il avait le maintien d'un roi, une belle taille, un beau visage. Le pays eut besoin de lui, il s'est fait tuer à la guerre. Moi j'ai resté seul sans appui, c'est ça que je vois dans mon verre. Parfois le ciel ouvre mes yeux, j'ai une grande fière d'envie. J'aperçois ceux du paradis que j'ai connu en cette vie. Heureux alors d'un tel émoi, je ne suis plus seul sur la terre. Ma famille autour de moi, c'est ça que je vois dans mon verre. Ma famille autour de moi, c'est ça que je vois dans mon verre.
Ce que je vois dans mon verre par Gwenka Syndical, ça c'est le nom de la formation, le titre éponyme d'un album qui est, je parle sous le contrôle, de Gwen Kivijer, présent ici, invité de cette émission, qui est paru en 2015, je crois.
Oui, je crois que c'est ça.
On est toujours avec Jean-Marie Niven, qui est musicien lui aussi, et qui connaît bien aussi la musique bretonne, mais pas que. On va continuer à parler de tes recherches. Hein. Tu mènes une thèse actuellement entre l'Université de Poitiers et l'Université du Québec
en Outaouais.
En Outaouais, c'est vers Québec, ça ?
Non.
C'est pas du tout là ?
Non. En fait, l'Outaouais, comme beaucoup au Québec, c'est un ancien mot d'une tribu indienne qui est en face d'Ottawa. Mmh. Ottawa, la capitale du Canada.
Ah oui.
Capitale administrative. Donc, c'est une petite ville, Ottawa. Mmh. Et tu traverses le pont et tu es en Outaouais. Et là, il y a un bout de l'université du Québec en Outaouais. Et l'autre bout est au nord de Montréal. Donc, c'est assez loin, en fait. Il y a au moins 2h30 entre les deux. C'est souvent comme ça au Québec. Et au nord de Montréal, tu as le département de sciences sociales appliquées, le département de travail social. Donc, ma co-directrice de thèse et chercheuse en travail social à l'UQO, quoi, à l'Université du Québec en Outaouais, au nord de Montréal.
Parce qu'il n'y a pas de doctorat de travailleur social, de travail social en France. C'est pour ça que tu as un pied de part et d'autre de
l'Atlantique. C'est l'une des raisons. Ouais. La première, c'est celle-là, effectivement, le travail social n'est pas une discipline de recherche spécifique en France. Il faut faire de la sociologie, de la psychologie, psychologie sociale, etc. Alors qu'au Québec, depuis 40 ans, comme aux États-Unis, c'est une discipline universitaire avec des protocoles de recherche qui sont propres à cette discipline.
On est à la bourre en France là-dessus, non ?
Ben oui.
Oui.
Oui, on pourrait dire ça. Oui. Et d'ailleurs, pour tout travailleur social aujourd'hui en France, quand tu lui parles du Québec, il n'y a aucun doute que c'est la référence. Tout le monde se réfère au domaine de recherche au Québec en travail social.
Ton directeur de thèse est un anthropologue ?
Mon directeur de thèse est un civilisationniste. Ah. C'est une matière très, très rare en France. Ce sont des chercheurs qui sont pluridisciplinaires. Donc lui, c'est autant la sociologie, l'anthropologie, il vient de l'anthropologie dynamique, mais également les sciences politiques. Et ce sont des gens qui font des recherches dans un champ territorial. C'est-à-dire que lui, c'est un spécialiste de la civilisation nord-américaine. Et donc, il s'intéresse aux questions de domination linguistique entre l'anglais et le français. Et il a fait sa thèse de doctorat auprès d'une minorité francophone de Terre-Neuve.
Ah oui.
Où il a passé 5 ans avec eux sur le territoire pour faire sa thèse.
Grand soleil là-bas, Terre-Neuve.
Ah oui, grand soleil,
ça,
oui.
C'est ça. Hein. Alors, c'est bien compris. Ta méthode, enfin, finalement, ton point d'approche, ton point d'ancrage, et je vais venir au bal de Bellevue assez vite, c'est l'utilisation des pratiques artistiques pour intervenir, en tant qu'outil, pour intervenir socialement, avec ce postulat que finalement l'art est une manière de travailler sur et pour le collectif, notamment dans un quartier populaire comme celui de Bellevue.
Oui. Oui, c'est ça. C'est en fait de tenter d'articuler une action artistique. Mais l'action particulière du bal de Bellevue, c'est que ce n'est pas simplement une action artistique, c'est une action artistique qui valorise la différence des cultures. Parce que sinon, ça pourrait être simplement, je ne sais pas moi, de faire un film, je ne sais pas, une pièce de théâtre, ou peu importe l'action artistique. Mais c'est de là de la spécificité et de prendre en compte les cultures des gens. Et l'autre spécificité pour moi du bal de Bellevue, c'est que c'est prendre en compte les spécificités des cultures des gens pour en faire du commun.
Ça, c'est important. Et la notion de passerelle est très importante chez toi. Le commun, la passerelle, c'est entre les individus et les communautés.
Oui, c'est ça. Les passerelles possibles à construire ou qui existent. Pour moi, ce qui est vraiment fondamental dans le bal de Bellevue, c'est c'est ce faire commun qui est construit à travers le bal. Il a deux dimensions. Pour moi, il a celle du jour du bal. Le 2 juillet, je vais prendre le cas de celui-là.
C'est en 2017, qui a réuni pas loin de 1000 personnes, pas
ça.
Très loin ici. Hein.
Et ce jour-là, le projet crée une communauté éphémère. Donc, ce n'est pas moi qui invente ce terme de communauté éphémère, hein, ce sont des chercheurs, moi je me fais référence.
Pendant le temps de l'événement.
Pendant le temps de l'événement, il y a une communauté éphémère. Il y a aussi l'idée de construction sur les 3 ans qui ont donné naissance à ce bal. Mais le jour du bal, il y a une communauté éphémère. Et cette communauté éphémère, elle est forte parce que, je ne sais pas si Jean-Marie se rappelle un jour, parce que moi je note tout quand on fait des discussions. Donc ça reste dans ma tête et après je le note quand je rentre chez moi, c'est le boulot d'un chercheur. Mais on était, c'était le jour du déménagement du local. On était en train de prendre un café en face du kebab ou je sais pas quoi, tu vois, sur la place Mendès France. Et Jean-Marie me dit, en fait, quand on danse ensemble, on ne se fait pas la guerre.
C'est vrai.
Et cette idée du commun, elle est là, c'est-à-dire que ce n'est pas simple de mettre ensemble des cultures différentes, parce que elles peuvent s'opposer sur plein de choses, mais il faut trouver ce qui va permettre qu'il n'y ait pas de guerre. Ça ne veut pas dire de normaliser, de standardiser les cultures, ce que a eu parfois tendance à faire peut-être le gouvernement français pour certaines cultures et peut-être continuer à le faire aujourd'hui. Mais ce n'est pas d'évacuer ce qu'elles sont, c'est de trouver les endroits où on peut faire commun. Et le bal, pour moi, a réussi à faire ça. Et donc, à partir de là, on peut construire, on peut continuer à construire des passerelles parce que les gens se sont rendus compte que finalement, on peut arriver à vivre ensemble.
Jean-Marie, comment ça... C'est effectué la rencontre, il nous reste 10 minutes, ça passe très très vite, la rencontre avec Gwenaël. C'est lui qui est venu vers toi, c'est toi qui es venu vers Gwenaël. Comment ça s'est passé?
Il me semble qu'on s'est rencontrés à travers un collègue en commun, musicien. Attends, je ne suis pas sûr en fait.
Non, j'ai pris contact avec toi juste après le bal, en disant j'aimerais bien venir te voir, et puis tu m'as accueilli chez toi.
C'était
après le bal du 2 juillet 2017.
Oui, alors je ne sais pas exactement quand après le bal, peut-être 10 jours plus tard, je ne sais plus.
Vous avez entendu parler du bal via...
Par Facebook.
Par Facebook, ok, d'accord.
Tout simplement. Mmh. À l'époque où justement, j'avais laissé tomber l'autre projet dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui était à Rennes. J'hésitais entre celui de Douarnenez, dont je parlais tout à l'heure, et celui de Rennes, qui était un rassemblement entre le cercle celtique de Rennes et un centre social. Et ça a complètement capoté. Et donc, il fallait que je trouve un terrain. Et tout d'un coup, en regardant Facebook, je fais « Waouh !» Il faut vraiment que ce soit ça.
Alors, ça coche plein de cases, finalement. Alors, je te laisse continuer, excuse-moi, je t'interrompais.
Non, mais ça, c'était la rencontre. Du coup, on s'est rencontrés comme ça et ça a été extraordinaire, cette rencontre, d'avoir ce regard sur le projet, un autre regard. En fait, quelque part, tu parlais de décentrement tout à l'heure. C'est exactement ce qui s'est passé entre une culture scientifique et, du coup, une culture populaire que, du coup, je porte ou j'incarne, avec une volonté à la base de faire un projet qui va au-delà, enfin de se servir, moi, de mes outils qui sont du coup de l'art musical, enfin et la danse, enfin la musique et la danse, mais pour aller sur un projet qui va bien au-delà, donc un projet de, moi je dis parfois sociétal, dans le sens comment faire connaissance avec les voisins, comment vivre avec eux, comment se réapproprier l'espace public, comment créer du commun, justement, à travers un bal du monde, etc. Donc c'était vraiment l'intention de base, et là, sur juste ce mot, sur cette intention, je pourrais disserter des heures, je pense, parce que c'est le fruit de tout un parcours, et où, au fur et à mesure de la rencontre avec Gwen, il y a cette culture commune. Bon, c'est un hasard, ça aurait pu être une autre culture, mais la culture bretonne et notre décentrement par rapport à cette culture qui a donné naissance à cette envie, c'est presque un besoin de donner du sens, en tout cas moi, à ma vie, à travers ce projet-là, quoi. Et à travers tous ces voyages, cette sensibilité aux cultures minoritaires, que ce soit en Inde, en Turquie, au Chili. Enfin bref, il y a souvent eu cette attirance, et à la fois culturelle, mais aussi à ce... C'est ça, c'est que les cultures minoritaires, c'est marrant, c'est comme si au fur et à mesure de la rencontre avec Gwen, il y a des étapes et il y a un cheminement qui se fait et on va plus loin au fur et à mesure dans le sens du pourquoi on fait ça, en fait. Et c'est comme si on dépoussiérait un petit peu le pourquoi on fait ça, on y voit plus clair, quoi, voilà. On y voit plus clair, ça.
J'aimerais qu'on parle de pouvoir d'agir. Ça, c'est un thème, une dimension. On aurait pu commencer par là, parce que c'est trop complètement transversal dans tes recherches. En quoi cette approche de prendre en compte chacune de ces cultures, comme tu l'as dit, sans les niveler, sans les standardiser, sans la normaliser, en quoi ça donne du pouvoir d'agir aux personnes concernées, aux personnes qui sont dans des quartiers comme le quartier de Bellevue, qu'on appelle quartier politique de la ville, parce qu'on ne veut pas dire quartier pauvre. En quoi ça leur redonne du pouvoir d'agir?
Alors, c'est une question super compliquée, parce que rien que le concept de développement du pouvoir d'agir, ça serait déjà compliqué de l'expliquer. D'une part, dire que le développement du pouvoir d'agir existe depuis les mouvements des droits civiques aux États-Unis, et particulièrement les mouvements des femmes, et particulièrement le mouvement des femmes noires.
On est quand fin des années 60 ?
C'est ça. Avec tous les mouvements de Malcolm X, etc. Donc, il y a une revendication communautaire pour la reconnaissance de droits civiques, c'est-à-dire d'être l'égal de l'autre au niveau des droits, peu importe la couleur de sa peau ou l'appartenance communautaire. La culture ne fait pas du tout partie du débat. En tant que telle, elle n'est pas identifiée comme telle. Et elle va être, le concept de développement du pouvoir d'agir va être réapproprié par le travail social ensuite et théorisé, entre autres, par des Québécois. Et va arriver en France timidement, et l'est toujours timidement, pour plein de raisons. Il est connecté, dans ma compréhension de la chose, avec l'histoire de l'éducation populaire en France. C'est-à-dire que, et on va dire de tous les mouvements qui cherchent à émanciper la personne. Donc c'est vaste. Mais la question est, en gros, de dire, quand on est dans des rapports de domination, on a tendance à ne plus regarder les capacités que l'on a pour amener à une transformation sociale. Et cette domination, elle a tendance à invisibiliser, donc de manière quasiment systémique. Elle va invisibiliser ce que tu es capable de faire. Je vais prendre un exemple concret, parce que là, c'est très théorique. Je faisais un projet dont on n'a jamais parlé, mais un peu similaire à celui du Bal de Bellevue. À l'époque, j'étais artiste et c'était à Châtellerault, dans le nord de la Vienne. Je travaillais donc dans le quartier d'Ozon, etc., quartier, l'équivalent du quartier Bellevue. Et à l'époque, j'allais collecter les personnes qui savaient chanter, surtout les vieux, mais pas que. Et j'arrivais, je rencontrais les gens en disant « Voilà, je suis chanteur, je vous chante une chanson, on m'a dit que vous étiez chanteur, est-ce que vous pouvez me chanter une chanson ?» etc. Ça se passait comme ça. Et là, je rencontre une dame qu'on me dit, bah voilà, cette dame-là, elle est chanteuse, c'est une Nigériane, donc anglophone. Et je la rencontre, une voix, petite voix timide, elle était arrivée en France avec sa fille, voilà, donc elle a en face d'elle un blanc, là j'utilise volontairement ce terme, un blanc occidental, qui doit avoir une certaine reconnaissance parce qu'il a le droit de venir lui parler, etc., etc. Bon, alors j'ai la chance d'être chanteur, donc ça va. L'artistique, encore une fois, fait tomber un peu les barrières.
Et la convivialité.
Et la convivialité, exactement. Donc elle se sent un peu plus à l'aise et je lui demande de chanter. Et là, les bras m'en tombent. Les murs tremblaient. Parce qu'il s'avère que c'était une dame qui avait l'habitude de chanter du gospel tous les dimanches, donc chez elle dans son village. Et ce jour-là, je vois la puissance que cette femme dégage, alors que quand elle me parlait, elle avait une petite voix timide, faisant très attention à ce qu'elle disait, en maîtrisant pas bien le français, etc. Et je me rends compte que cette femme a une capacité réelle de transformation sociale, ne serait-ce qu'en faisant trembler les murs. Et ce truc-là, c'est pas quelque chose que tu mets dans ton CV, c'est pas quelque chose que tu vas mettre en avant, parce que non seulement la culture des gens n'est pas prise en compte, mais encore moins des outils issus des traditions. Et encore moins venant des populations immigrées. Il suffit de taper sur Google ou n'importe quel autre moteur de recherche les cultures traditionnelles des populations immigrées. Vous n'allez quasiment rien trouver, même dans le domaine de la recherche scientifique. C'est quelque chose qui est complètement invisibilisé. On ne prend pas en compte cet élément-là concernant les Français, mais encore moins pour les populations immigrées. Alors que pour une grande partie des gens qui sont arrivés à Beaulieu, il ne faut pas oublier qu'au moins, si...
À Beaulieu, à Bellevue.
À
Beaulieu, tu parles de...
Ici, à Bellevue.
À Bellevue.
S'ils ne sont pas arrivés directement du milieu rural, au moins une génération, deux générations avant, ils viennent du milieu rural. Et on les considère comme étant des gens du milieu urbain. Sauf qu'en général, ils ne viennent pas avec ces référents culturels-là. Ils viennent avec des... Et d'ailleurs, Jean-Marie s'est bien rendu compte en collectant les gens, en les interrogeant sur les danses, etc. Ils portent des valeurs et des cultures qui ne sont pas celles du milieu urbain. Et pourtant, elles sont transportées aujourd'hui en milieu urbain. Mmh. Et donc, ces cultures-là, elles sont complètement mises de côté, comme si elles-mêmes, elles n'existaient pas. Voilà aussi, je pense, l'intérêt du Bal de Bellevue, c'est qu'il a mis ça en valeur.
Et moi, je ne m'en suis pas rendu compte.
Il nous reste 2 minutes.
Là, j'en avais conscience avant, et c'est pour ça que, entre autres, c'est une des raisons pour laquelle j'ai monté le Bal de Bellevue, et puis il y en a plein d'autres des raisons. Mais effectivement, il y a un énorme travail à faire, en France en général, et pas que d'ailleurs, pour valoriser et faire du commun.
Oui, ça. C'est ça. C'est-à-dire que finalement, cette... porter intérêt, collecter, valoriser comme le fait le Bal de Bellevue, et ce qui peut donner justement un répertoire fait par les habitants du quartier qui donne à 2 juillet 2017 et les bals qui ont suivi, finalement c'est la base d'un processus de partage, on peut dire ça, qui est le préalable à plus de cohésion sociale, à plus d'intervention sociale. C'est comme ça qu'on lit les deux bouts de la ficelle.
Ben, ce qui permet de lier les deux bouts de la ficelle, c'est de ne jamais penser que l'individu peut s'émanciper seul. Ça, c'est peut-être ce que le néolibéralisme a voulu nous faire vendre. Mmh.
Oui.
Mais on ne s'émancipe pas seul, on s'émancipe avec les autres. Et ça, c'est l'un des points forts du développement du pouvoir d'agir. Mmh. C'est-à-dire de dire à la personne, vous avez la possibilité de transformer votre situation. Mais le rôle de la société est de mettre tout en place pour que vous puissiez le faire. Mmh. Et donc, c'est deux boules de la ficelle qu'il ne faut jamais oublier. Le collectif et l'individu, pas l'un sans l'autre. Mmh. Et donc, il faut faire avec les deux, ce qui n'est pas simple. Et l'idée des danses collectives, c'est celle-là. N'importe qui a un jour dansé des danses en rond sait qu'il n'y a pas de leader dans le rond. Il va y avoir un chanteur à un moment, par exemple les danses bretonnes, qui chante, et à un moment, tout le monde va lui répondre. Et quand la chanson est finie, quelqu'un d'autre dans le rond peut devenir à ce moment la leader. Et en fait, il n'y a pas de leader. Il y a à la fois du collectif, mais il y a un petit moment de mise en avant de l'un ou l'autre, et qui fait plaisir.
Donc les individualités sont respectées, et tout ça crée voilà, une cohésion, une multitude qui est cohérente.
Une communion.
Une communion, voilà, c'est un peu ça. C'est mon côté athée qui...
Je peux, pour terminer peut-être, juste donner le titre de la thèse actuellement dans ce qu'elle est. Parce que ça fait un résumé, en fait, de ce qu'on est en train de dire. Le titre actuel aujourd'hui, c'est « Faire commun par la diversité culturelle les habitants d'un quartier prioritaire. Contribution au rapprochement des pratiques entre acteurs culturels et travailleurs sociaux. Le cas du bal de Bellevue. »
Tout est dit dans ce titre-là, et cette thèse, on ne demande jamais à un thésard quand il termine sa thèse, donc je ne pose pas la question, mais en tout cas, j'aurais grand plaisir à continuer cette conversation, parce que je suis un peu sur ma faim, tellement le projet est dense, et que finalement, t'as un peu...
Dense, D-A-N,
voilà,
bien sûr.
Comme tu veux. Merci beaucoup, Gwenaëlle Kivigère, pour tout ça. Merci Jean-Marie, de toute façon, on se quitte.
Merci
pas,
à vous. Hein.
Et on va se quitter encore, grâce à toi, un cadeau, et on remercie Alizée qui a réalisé cette émission. Juste, tu vas nous présenter ce qu'on va entendre maintenant.
C'est une suite d'Enterdro, avec deux compositions à moi, dont un hommage à un lieu mythique de Locronan qui s'appelait la Taverne Tigers. Malheureusement, maintenant, le bar a été vendu et c'est quelqu'un qui en a fait autre chose, mais c'était un lieu mythique. Et donc, c'était un hommage à ça. Le deuxième morceau est un morceau traditionnel et le troisième, une autre composition. Mais le morceau traditionnel est vraiment du pays Vantais, avec des modes Vantais, les modes anciens Vantais. C'est un morceau absolument fabuleux, à mon point de vue. Mais voilà,
Des Enterdro, signé Gwenka Syndicat. Merci à vous, messieurs. Merci à Alizée encore une fois. À bientôt.